Jacques Lacan. Séminaire Les Non-Dupes, R. Le 11 juin 1974. Coupure début de bande.
Le sème, c'est un compliqué, c'est ce qui fait sens. Tout ce qui fait sens dans la langue s'avère lié à l'existence de cette langue, à savoir que c'est en dehors l'affaire de la vie du corps. Et que s'il y a quelque chose que j'ai essayé de développer, d'amener devant vous, j'espère avoir rendu présent, mais qui sait, c'est que c'est pour autant que cette jouissance, que cette jouissance sémiotique se surajoute je surajoute au corps qu'il y a un problème. Ce problème, je vous ai proposé de le résoudre. Que ce soit une complète solution, mais de le résoudre simplement du constat que cette sémiose chatouille le corps dans la mesure, et cette mesure, je vous la propose comme absolue, dans la mesure où il n'y a pas de rapport sexuel. En d'autres termes, le temps, c'est en somme confus que seul le sait. Une fois qu'on l'a lui-même un peu éveillé à l'existence, c'est-à-dire qu'on l'a dit comme tel. C'est par là que, c'est dans la mesure où le corps parlant, habite ses scènes, qu'il trouve le moyen de suppléer au fait. fait de rien. Rien à part ça. Je le conduirai vers... vers ce que... on a bien été forcé de faire surgir dans le terme autre. Dans le terme autre qui habite la langue. Qui est fait pour représenter ceci justement, qu'il n'y a avec le partenaire sexuel, aucun rapport au, que par l'intermédiaire de ce qui fait sens dans la langue. Il n'y a pas de rapport naturel non pas que s'il était naturel on pourrait l'écrire mais que justement on ne peut pas l'écrire parce qu'il n'y a rien de naturel dans le rapport sexuel de cet être qui se trouve moins être parlant qu'être parlé. Que imaginairement, à cause de ça, cette jouissance dont vous voyez quand vous la présentant comme phallique, je l'ai qualifiée de façon équivalente comme sémiotique, bien sûr. C'est évidemment parce qu'il me paraît tout à fait. C'est grotesque de l'imaginer ce phallus dans l'organe mâle. C'est quand même bien ainsi que dans le fait que révèle l'expérience analytique, il est imaginé. Et c'est certainement aussi le signe qu'il y a dans cet organe mâle quelque chose qui constitue une expérience de jouissance qui est à part des autres. Non seulement qui est à part des autres, mais qui les autres jouissances, la jouissance qu'il est tout à fait facile d'imaginer, à savoir qu'un corps, mon Dieu, c'est fait pour me le plaisir de lever un bras et puis l'autre, et puis de faire de la gymnastique, et de sauter, et de courir, et de tirer, et de faire ce qu'on veut. Bon. Il est quand même curieux que. Ce soit autour de cet organe que naît une jouissance privilégiée. Car c'est ce que montre l'expérience analytique, c'est à savoir que c'est autour cette forme grotesque que se met à pivoter enfin cette sorte de suppléance de suppléance que j'ai qualifié de ce qui dans l'énoncé de Freud est marqué du privilège, si on peut dire, du sens sexuel, sans qu'il ait vraiment réalisé, quoique tout de même, ça le chatouillait lui aussi, et il l'a entrevu, il l'a presque dit dans le malaise de la civilisation, c'est à savoir que le sens n'est sexuel que parce que le sens se substitue justement au sexuel qui manque. Tout ce qu'implique son usage analytique du comportement humain, c'est ça que ça suppose. Non pas que le sens reflète le sexuel, mais qu'il y supplée. Le sens, il faut le dire, le sens comme ça, quand on ne le travaille pas, ben il est opaque. La confusion des sentiments, c'est tout ce que la langue est faite pour sémiotiser. Je dis bien pour ça que tous les mots sont faits pour être employables à tous les sens. Alors, ce que j'ai proposé, de cet enseignement des discours de Rome, c'est d'accorder l'importance la pratique, c'est à la pratique analytique, au matériel de la langue. Un linguiste, bien sûr, est tout à fait introduit d'emblée, cette considération de la langue, comme ayant un matériel. Il connaît bien ce matériel, c'est celui qui est dans les dictionnaires, mais c'est le lexique, c'est la morphologie aussi. Enfin, c'est l'objet de sa linguistique. Il y a naturellement, il peut s'encouder au-dessus de ce. D'un tel congrès que celui que je vous ai dit, c'est Jacobson. Il a comme ça un petit peu parlé de moi, comme ça en marge, quoi. Pas dans son discours d'entrée, mais tout de suite après, enfin, il a tenu à bien préciser que l'usage que j'avais fait de saussure, n'est-ce pas? Et derrière de saussure, j'en savais assez pour le savoir quand même, des stoïciens et de Saint-Augustin, pourquoi pas, je recule devant rien. Bon. C'est bien sûr que ce que j'ai emprunté à saussure simplement, et aux stoïciens sous le terme de signatum, ce signatum, c'est le sens, et qu'il est tout aussi important que cet accent que j'ai mis sur le signant. Le signant a l'intérêt qu'il nous permet dans l'analyse d'opérer, n'est-ce pas, de résoudre, encore comme tout le monde, nous soyons capables d'avoir une pensée à la fois, mais de nous mettre dans cet état, dit pudiquement, d'attention flottante, qui fait que justement, quand le partenaire, la navigeant, lui en aimait une pensée, nous pouvons en avoir une tout autre. C'est un heureux hasard d'où jaillit un éclair. Et c'est justement là que peut se produire l'interprétation. C'est-à-dire que, à cause du fait que nous avons une attention flottante, nous entendons ce qu'il a dit, quelquefois simplement du fait d'une espèce d'équivoque, c'est-à-dire d'une équivalence matérielle. Nous apercevons que ce qu'il a dit pouvait être, entendu tout de travers. Et c'est justement en l'entendant tout de travers que nous lui permettons de s'apercevoir d'où ses pensées, sa sémiotique à lui, d'où elle émerge. Elle n'émerge de rien d'autre que de l'existence de la langue. La langue existe ailleurs que dans ce qui croit être son monde. La langue a le même parasitisme que la jouissance phallique par rapport à toutes les autres jouissances. Et c'est elle qui détermine comme parasitaire dans le réel ce qu'il en est du savoir inconscient. Il faut concevoir la langue. Et pourquoi pas? Pourquoi pas parler de ce que la langue serait en rapport avec la jouissance phallique comme les branches à l'arbre? Il ne va pour rien, parce que quand même, ma petite idée, il ne va pour rien que je vous ai fait remarquer que ce fameux arbre de départ, là, celui où on a cueilli la pomme, on pouvait se poser la question s'il jouit lui-même, tout comme un autre être vivant. Si je vous ai avancé ça, c'est pas tout à fait sans raison, bien sûr. Et alors, disons que la langue, n'importe quel élément de la langue, c'est au regard de la jouissance phallique, un brin de jouissance. C'est dans ça que ça étend ses racines si loin dans le corps. Bon, alors, quand il faut partir, vous voyez, ça traîne, il est tard. Bon, c'est cette forte affirmation, n'est-ce pas, que l'inconscient n'est pas une connaissance. C'est un savoir, et un savoir en temps, je définis, la connexion de signifiants. Premier point. Deuxième point. C'est un savoir disharmonique. Qui ne prête d'aucune façon à un mariage. Même ces remarques ont leur importance historique parce que vous verrez, c'est vous qui me survivrez, vous verrez tout ce qui a commencé de se balbutier comme ça en biologie donne bien l'impression que la vie n'a rien de naturel. C'est une chose folle. La preuve, c'est qu'on y a foutu la linguistique. C'est énorme, ça. Elle réservera des surprises de vie quand on aura cessé de parler d'une décence honnête. Savoir s'imaginer que la vie se s'oppose à la mort. C'est absolument dingue, cette histoire. Alors, qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce qui est mort? Le monde inanimé, nous disons. Nous oublions qu'il y en a une autre conception de l'âme que celle que je vous représentais maintenant, à savoir que l'âme, c'est un crabe. Alors, je vais vous dire, au point où nous en sommes, c'est paradoxal. Hein? Paradoxal, je disais, parce que j'ai lu comme ça un petit papier torchon, comme ça, qui s'était mis là dans le dernier congrès de la Société de psychanalyse. Et qui témoignait ceci, qui est pour le moins paradoxal. C'est que pour ce que je suis en train de rejeter, à savoir qu'il y ait connaissance, qu'il y ait la moindre harmonie de ce qu'on situe de la jouissance corporelle, avec ce qui entoure. Bon. Mais s'il n'y a qu'un endroit où ça puisse se produire, cette fameuse connaissance, un endroit à mon sens. Et vous ne le devinerez jamais, enfin. C'est dans l'analyse elle-même. Dans l'analyse, on peut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui ressemble à la connaissance. Et j'en trouve le témoignage dans ceci, à propos du papier torchon dont je vous parle, où il s'agit du rêve. C'est absolument merveilleux, enfin l'innocence avec laquelle ça s'avoue, n'est-ce pas? Il y a une personne, et une personne dont je ne m'étonne pas du tout que ce soit cette personne-là, parce que quand même, il a reçu une touche de, comme ça, un petit coup de fion que je lui ai donné dans le temps. C'est que tout est centré autour de ceci, qui voit se reproduire dans un de ses rêves, une note, à proprement parler, sémantique, savoir que ce n'est que vraiment là comme noté, à articuler, écrit, n'est-ce pas? Il voit se reproduire dans un de ses rêves une note sémantique du rêve. D'un de ses patients. Il a bien raison de foutre connaissance dans son titre. Cette espèce de mise en co-vibration, comme ça, en co-vibration sémiotique, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est pas étonnant qu'on appelle ça, pudiquement comme ça le transfert, bon, n'est-ce pas? Et on a bien raison aussi de ne l'appeler comme ça, ça je suis pour, enfin, tout ça. C'est pas l'amour. Mais c'est l'amour au sens ordinaire, c'est l'amour tel qu'on se l'imagine. L'amour, c'est évidemment autre chose, mais pour ce qui est de l'idée, si je puis dire, qu'on se fait de l'amour, enfin, on fait pas mieux que dans cette sorte de connaissances analytiques. Je ne suis pas sûr, n'est-ce pas, que ça mène loin. C'est bien aussi d'ailleurs pourquoi ça reste dans le marais, toute l'expérience analytique. C'est pas de ça qu'il devrait s'agir. Il doit s'agir d'élaborer, permettre à celui que j'appelle l'analysant d'élaborer. C'est bien d'élaborer savoir inconscient qui est en lui comme un chancre. Pas comme une profondeur, comme un chancre. Là, c'est autre chose, bien sûr. C'est autre chose que la connaissance. Il faut une discipline, évidemment, un peu autre qu'une discipline philosophique, n'est-ce pas, non? Oui. Il y a un machin de Cocteau, parce que de temps en temps, enfin, je ne vois pas pourquoi je cracherais sur les écrivains, enfin, plutôt moins con que les autres. Enfin, c'est un machin du Cocteau qui s'appelle le Potomac. Où il a créé quelque chose. Bon, je ne vais pas me mettre à vous dire ce que c'est, les Eugènes. Bon. Mais il y a aussi là-dedans les Mortimer. Les Mortimer n'ont qu'un seul cœur. Et c'est représenté dans un petit dessin où ils ont un rêve en commun. C'est quelqu'un dans le genre de mon psychanalyste de tout à l'heure, là, de celui que je n'ai pas nommé, hein, n'est-ce pas? Entre l'analyseur et l'analyste, c'est comme chez les Mortimer. Hein. C'est pas fréquent, hein, c'est pas fréquent, même chez les gens qui s'aiment, qui passent le même rêve. Ça, c'est même très remarquable. C'est bien ce qui prouve la solitude de chacun avec ce qui sort de la jouissance phallique. Ouais. Bien. Alors, quand même, il ne reste plus qu'un petit quart d'heure. Alors, je voudrais quand même faire quelques remarques. Je voudrais quand même faire quelques remarques sur la portée, parce que ça a semblé frapper comme ça un copain qui est là au premier rang. Je vais lâcher ça comme ça au cours d'un dîner. Je vais lâcher ça au cours d'un dîner et j'ai eu la surprise de voir que ça le comblait de plaisir. Alors je me suis rendu compte à quel point je m'explique mal. Parce que moi, je vous avais écrit au tableau E de X par l'amphi de X. Ce qui veut dire, faut qu'il y en ait un qui dise non à la jouissance phallique. Grâce à quoi, et seulement grâce à quoi, il y en a des tous qui disent oui. Et je vous ai mis en face. J'ai dû prêter à confusion, n'est-ce pas, qu'il y en a d'autres, enfin, chez qui il n'y en a pas qui disent non. Hein. Moi, ça a pour curieuse conséquence, n'est-ce pas, que chez ces autres, ça. Il n'y a pas tous qui disent oui. Ça, c'est l'inscription, n'est-ce pas? C'est la tentative d'inscription dans une fonction mathématique de quelque chose qui use des quanteurs. Il n'y a rien d'illégitime, je ne vais pas plaider ça aujourd'hui, parce que nous n'avons plus le temps. Il n'y a rien d'illégitime à cette quantification du sens. Bon. Cette quantification relève d'une identification. L'identification relève d'une unification. Qu'est-ce que je vous ai écrit autrefois dans les formules des quatre discours? Un S1 qui vient se ficher, qui vient pointer dans un S2. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un S1? Comme la lettre l'indique. Le propre d'un signifiant, c'est c'est un fait de langue auquel on ne peut rien. C'est que tout signifiant peut se réduire à la portée du signifiant 1. C'est en tant que signifiant 1, je pense que vous vous souvenez autrefois de mes petites parenthèses, S1, S2, entre parenthèses, il y avait des S1 qui se refoutaient devant, etc. Pour exprimer l'affaire que je définis, pour faire que le signifiant, ça soit ce qui domine dans la constitution du sujet, un signifiant, ce qui représente un sujet pour un autre. Bon. Alors, toute lettre X, quelle qu'elle soit, ça veut dire cet 1 comme indéterminé. C'est ce qu'on appelle dans la fonction, au sens mathématique, l'argument. C'est de là que je suis parti pour vous parler de l'identification. Bon. Mais s'il y a une identification, identification sexuée. Mais si d'autre part je vous dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a d'identification sexuée que d'un côté. C'est-à-dire que tous ces épinglages dysfonctionnels de l'identification ils sont à mettre, c'est dans ça que le copain en question manifestait sa vive satisfaction. Parce que je lui ai dit comme ça, enfin, appuyé, au lieu qu'à vous, je vous ai laissé dans la mélasse. C'est que toutes ces identifications sont du même côté. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une femme qui est capable de les faire. Pourquoi pas l'homme? Parce que vous remarquez que je dis bien sûr une femme et puis je dis l'homme. Ben, parce que l'homme tel que l'imagine la femme, c'est-à-dire celle qui n'existe pas. C'est-à-dire une imagination de vide. L'homme, lui, il est tordu par son sexe. Au lieu que une femme peut faire une identification sexuée, elle a même que ça à faire, puisqu'il faut qu'elle en passe par la jouissance phallique qui est justement ce qui lui manque. Je vous dis ça parce que je pourrais le moucheter d'un repérage de mes quatre petits épinglages là. A de X, le A renversé, bien sûr, G Je vais pas au tableau parce que vous allez plus entendre. J'écris au tableau. Bon. A de x, phi de x. Qu'est-ce que ça veut dire pour la femme, puisque vous avez pu croire qu'avec ça, ce que je désignais, c'était tous les hommes. Ouais. Dire l'exigence que la femme montre ses patents, que l'homme soit tout à elle. Je commence par là parce que c'est le plus marrant. Et dans la nature d'une femme d'être jalouse. Dans la nature de son amour. Quand je pense qu'il va falloir que d'ici 10 minutes, je vous explique aussi ce qu'est l'amour. Je suis ennuyé d'être bousculé à ce point-là. Bon. Oui. Le pas tout dont j'ai inscrit l'autre rapport au phi de x. Oui, c'est par quoi ce même amour, l'amour dont il s'agit, et que je mets là comme ça généreusement tout entier du côté des femmes. Il faut quand même y mettre, si je puis dire, pédale. Hein? Je veux dire par là que c'est pas toute qu'elle aime. Il lui en reste un bout pour elle de sa jouissance corporelle. C'est ça que ça veut dire, le A de X, pareil, le pas toutisme. Bon, et puis après, le E de X, l'existence. L'existence du X, tout pour un rien, puis parce que je l'ai dit ici en clair, n'est-ce pas, qui est celui où situe Dieu. Faut être plus tempéré, hein. Je veux dire par là qu'il faut pas se monter le bourrichon avec cette histoire de Dieu, puis le temps s'assuse. C'est pas tout de même parce qu'il y a du savoir dans le réel que nous sommes forcés de l'identifier à Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Je vais vous en proposer, moi, une autre interprétation. E de X, phi de X, barré. C'est le lieu de la jouissance de la femme. Qui est beaucoup plus lié au dire qu'on l'imagine. Faut bien dire que sans la psychanalyse, il est bien évident que je serais là-dedans comme un béjaune. Comme tout le monde. Le lien de la jouissance de la femme à l'impudence, dire, c'est ce qui me paraît important à souligner. J'ai pas dit l'impudeur. L'impudence, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Ouais. Et de X, fille de X, paraît tous les deux. Oui. Ce en quoi la femme n'existe pas. C'est-à-dire ce en quoi sa jouissance saurait être fondée de sa propre impudence. Je vous livre ça comme ça, c'est... Je dois convenir que c'est... Je me trouve patient, hein, quoi. Ça, je m'écoute ma sue, hein. Je vous colle sur la... Mais enfin, comme je suis un tout petit peu bousculé, n'est-ce pas, je voudrais quand même conclure sur ce fait. Que l'inconscient, comme savoir disharmonique, est plus étranger à une femme qu'à l'homme. C'est marrant, hein, vous me dites un truc pareil. Oh. Et alors, qu'est-ce qui va en résulter? Qu'est-ce qui va en résulter? C'est qu'il y a quand même le côté femme. C'est bon parce qu'il est plus étranger... Il n'est pas étranger à l'homme aussi. Il lui est plus étranger à elle parce que ça lui vient de l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'homme dont elle rêve. Parce que si j'ai dit que l'homme existe, j'ai bien précisé que c'est dans la mesure où c'est lui qui par l'inconscient est le plus chancré, hein, et chancré même. Bon. Mais une femme... conserve, si je puis dire, un petit peu plus d'aération dans ses jouissances. Elle est moins échancrée. Contrairement à l'apparence. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Je voudrais terminer sur ceci qui est extrait de Peirce. Ce qui s'est aperçu quand même que la logique aristotélicienne, c'est une logique purement prédicative et classificatoire. Alors, il s'est mis à cogiter autour de l'idée de la nation. À savoir ce qui est parfaitement ce qui va de soi, ce qui est du billard concernant, non pas l'épinglage fonctionnel à un seul argument que je viens de vous donner pour être celui de l'identification, en remettant la chose dans la poche de la femme. Il s'est mis à cogiter autour de X, R, grand R, signe d'une relation idéale, vidée, il ne dit pas laquelle, grand R et Y. Une fonction à deux arguments. Hein. De la relation savoir. Il y a une chose très très astucieuse qui est notée dans Peirce. Vous voyez, je rends hommage à mes auteurs. Quand j'y fais une trouvaille, je la lui rends. Mais je la lui rends comme ça, je pourrais aussi bien ne pas la lui rendre autrefois. L'autre fois, j'ai parlé de métaphore et de métonymie, et les gens se sont mis à pousser les hauts cris, sous prétexte que j'avais pas dit tout de suite que je devais ça à Jacobson, comme si tout le monde ne sait pas le savoir. Enfin, c'était la planche et le fèvre Cantalis qui ont poussé les hauts cris autour de ça. Enfin, quel souvenir, quoi, c'est le cas de le dire. Bon, ben, Si, ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous avance, est fondé. Mais le savoir, ça n'a pas de sujet. Si le savoir, c'est foutu, ben voilà, la connexion de deux signifiants, et que ce n'est que ça. Ça n'a que sujet qu'à supposer qu'un cercle de représentants du sujet auprès de l'autre. Quand même quelque chose d'assez curieux là. C'est que la relation, si vous écrivez X grand R Y, dans cet ordre, en résulte-t-il que X est relaté à Y. Pouvons-nous, de la relation, supporter ce qui s'exprime dans la voie active ou passive du verbe? Mais ça va pas de soi. C'est pas parce que j'ai dit que les sentiments sont toujours réciproques, car c'est ainsi que je me suis exprimé dans le temps, devant des gens qui, comme d'habitude, n'entendent rien à ce que je dis. C'est pas parce qu'on aime qu'on est aimé. Je n'ai jamais osé dire une chose pareille. L'essence de la relation, si en effet quelque effet en revient au point de départ, ça veut simplement dire que quand on aime, on est fait énamoré. Et quand le premier terme, c'est le savoir, Madame, nous avons une surprise. C'est que le savoir, c'est parfaitement identique au niveau du savoir inconscient, au fait que le sujet est su. Au niveau du sens, en tout cas, c'est absolument clair, n'est-ce pas? Le savoir, c'est ce qui est su. Alors, essayons quand même de tirer quelques conséquences de ceci, que ce que l'analyse nous montre, enfin, c'est que ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire enfin, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'amour courant, enfin, l'amour sur lequel on s'assoit tranquillement, et puis pas d'histoire. L'autre de nous pareil que ce qui se produit quand émerge la jouissance de la femme. Mais que voulez-vous, ça sera, je vous réserverai ça pour l'année prochaine. Non. Pour l'instant, essayons bien de saisir que ce que l'analyse a révélé comme vérité. L'analyse a révélé comme vérité, c'est que l'amour dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour se porte vers le sujet supposé savoir. Et alors, qu'est-ce qui serait l'envers de ce sur quoi j'ai interrogé la relation de savoir? Eh bien, ça serait que le partenaire, dans l'occasion, est portée par cette sorte de motion enfin, qu'on qualifie de l'amour. Oui. Mais si le hic de la relation qui pourrait s'écrire comme sexuelle, c'est le signifiant en tant qu'il est branché sur la jouissance phallique, nous avons tout de même à en tirer la conséquence. La conséquence, c'est ça. Si l'inconscient est bien, dont je vous ai dit aujourd'hui, le support, un savoir. Ce que tout ce que je voulais vous dire cette année à propos des non-dupes inquiets, ça veut dire que qui n'est pas amoureux de son inconscient erre. Ça ne dit rien du tout contre les siècles passés. Si j'étais tout autant que les autres amoureux de leur inconscient, donc, ils n'ont pas erré. Simplement, ils ne savaient pas où ils allaient, hein. Mais pour être amoureux de leur attention, ils l'étaient. Ils s'imaginaient que c'était la connaissance. Car il n'y a pas besoin de se savoir amoureux de son inconscient pour ne pas errer. Il n'y a qu'à se laisser faire, en être la dupe, Pour la première fois dans l'histoire, il vous est possible, à vous, d'errer. C'est c'est-à-dire de refuser d'aimer votre inconscient. Enfin, vous savez ce que c'est, un savoir en merde. Mais c'est peut-être dans cette erreur, deux erreurs, vous savez, ce truc qui tire là comme navire. Le navire se laisse balancer. Hein. C'est peut-être là que nous pouvons parier de trouver le réel un peu plus dans la suite. Hein. Nous apercevoir que l'inconscient est peut-être sans doute disharmonique, mais peut-être il nous mène un peu plus de ce réel qu'à ce très peu de réalité qui est la nôtre, celle du fantasme, qui nous mène au-delà, au pur